J'ai envie de partager quelques réflexions, toujours sur les mêmes passages qui me pourchassent depuis si longtemps, donc le sermon sur la montagne. Et j'aimerais lire le début du chapitre 6, Matthieu 6, versets 1 à 4. « Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent, sinon vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. Donc, si tu fais un don à quelqu'un, une aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Et vous vous rappelez, dans ce discours de Jésus, ça suit ensuite, Jésus parle de quand on prie, et puis, il y a le même genre de raisonnement qu'on vient de lire ici. Puis ensuite, à la fin du chapitre, c'est pas tout à fait à la fin, plus loin dans le chapitre, lorsque vous jeûnez. L'aumône, la prière, le jeûne. Pourquoi Jésus donne cet enseignement? Quel est son but? En fait, qu'est-ce que recherchent les êtres humains? Pourquoi est-ce qu'on aurait envie de faire des choses comme faire des dons, jeûner ou prier en public? Qu'est-ce qu'on recherche? On recherche finalement, d'une manière ou d'une autre, l'approbation des autres. On a envie d'être compris, on a envie d'être, d'avoir une relation avec les autres. On a envie que les autres nous comprennent, on a envie que Dieu nous comprenne, que Dieu nous apprécie. On a envie de relation, on a envie, j'ai appelé ça d'approbation. On a envie d'être approuvé par ceux qui nous entourent, d'être approuvé. Et c'est un terme qui peut recouvrir plusieurs choses, mais je vais le garder comme expression de ce qu'on a besoin. Et c'est un besoin fondamental. Il y a une phrase célèbre qui dit que Dieu nous a créés avec un vide à l'intérieur de nous-mêmes qui a la forme de Dieu. On a créé avec une soif, un besoin de Dieu, mais pas seulement. On a été créé avec un besoin de relation avec les autres. On a été créé avec ce besoin de recevoir de l'approbation les uns des autres. La communion horizontale, la relation horizontale, elle fait partie du plan de Dieu pour nous. Il n'y a pas que la relation avec lui, la relation les uns avec les autres est aussi importante. Et ça nous pose alors deux questions. Comment recevoir cette appréciation de Dieu? Comment recevoir l'appréciation les uns des autres, l'appréciation des hommes? Alors, le texte que je viens de vous lire, il montre une chose claire. En tout cas, c'est si je recherche, je fais des choses pour rechercher l'approbation de Dieu, mais que par derrière, je cherche l'approbation des hommes, eh bien, je suis à côté. Ça ne marche pas. Je passe à côté de la chose essentielle que je recherche, c'est de recevoir l'appréciation de Dieu. Et je vais peut-être recevoir l'appréciation des hommes, peut-être pas, ça peut marcher parfois. Mais comment faire pour vraiment recevoir l'appréciation de Dieu, recevoir l'appréciation des hommes, chacune à leur place? Alors, dans ces versets-là, Jésus donne quatre pistes que j'ai trouvées intéressantes de suivre. Quatre manières d'être, de comprendre, qui nous permettent d'équilibrer justement la recherche de Dieu et la recherche des autres. Alors, la première chose, c'est ce qu'on a lu, c'est les aumônes, les dons que je fais aux autres, le service que j'accomplis pour autrui. Ces bonnes actions, elles sont nécessaires, Dieu les apprécie, il nous appelle d'être sel et lumière dans le monde, de faire du bien, ça fait partie de ce qu'on doit faire. Mais comment les faire pour qu'elles soient vraiment... Elles nous apportent ou elles accueillent l'appréciation, l'acquiescement de Dieu. Le danger, c'est ce qu'on voit ici, c'est de se mettre en avant, de se mettre soi-même, de chercher à acquérir quelque chose, à acquérir finalement cette appréciation et en partie des hommes. Mais là, Jésus, je trouve une phrase que j'avais lue mille fois sans m'en rendre compte, mais qui est très profonde. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. » Bon, on l'a entendu mille fois, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette image, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite? Ben, mes mains, elles ne savent pas grand-chose. Attendez, j'ai un peu... Je vais un peu tout tourner tout à coup. Pardon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite? Ça veut dire finalement que je ne suis pas conscient de ce que je fais. Que je fais les choses sans en être conscient. Je fais les choses finalement sans rien en attendre en retour. Je les fais naturellement. Puisque je le fais sans réaliser vraiment ce que je fais. Donc ce que Dieu attend dans ces cas-là, c'est des actions toutes naturelles, venant du cœur, cohérentes avec lui. Je fais l'aumône pour celui que je servir, pas pour retirer quelque chose, pas pour faire plaisir à Dieu, mais je le fais parce qu'il y a mon cœur qui est touché et qui fait que je vais faire cet acte-là, tout naturellement. Sans... je fais l'acte, je fais le don sans arrière-pensée. Je le fais vraiment au premier degré. Je n'attends pas un retour. Et c'est à ça qu'on est appelé finalement. Des actions sans arrière-pensée. Et ça fait partie fondamentalement de ce que Dieu nous demande. Parce que si vous reprenez dans l'Ancien Testament la manière dont Dieu décrit la relation qu'il veut pour le Nouveau Testament, qu'il veut pour nous. C'est une nouvelle alliance qui est particulière. Ce n'est plus une alliance donnant-donnant, je fais pour recevoir. La nouvelle alliance, on le lit dans Jérémie 31, « Voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » Personne n'enseignera plus à son prochain ni à son frère disant « Vous devez connaître l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Je l'écris dans le cœur. Le principe même de cette nouvelle alliance, c'est qu'elle est naturelle. Ça vient de l'intérieur. C'est plus quelque chose qui est donnant-donnant. Alors c'est bien beau, mais le problème c'est comment discerner si ce que je fais vient du cœur, est naturel, ou bien est-ce que je le fais quand même indirectement pour mon bien, pour satisfaire Dieu. Et on s'est tous posé ces questions, je suppose, quand on agit. Est-ce que je suis vraiment honnête en faisant ça? Est-ce que c'est vraiment de cœur que je fais ça? Ou est-ce que je sers quelqu'un, c'est pas quand même pour avoir une belle image, pour recevoir cette approbation? Ça veut dire quoi, naturel? Est-ce que ça veut dire que c'est une action que je fais sans effort, comme ça, sans que ça me coûte quoi que ce soit? Ben, certainement pas. Ou bien, est-ce que c'est quelque chose que je... Si c'est quelque chose que je fais simplement par obéissance, est-ce que ça veut dire que c'est pas naturel? C'est pas du cœur? Ben, il suffit de regarder Jésus, comment il a agi dans ce moment. Il faisait que ce qu'il voulait... Que ce que son père lui disait de faire, il était dans l'obéissance. Et cependant, il agissait parfaitement de cœur. Il était en cohérence, si vous voulez, avec Dieu. Ça ne veut pas dire que les actes que l'on fait sont faciles. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas faits avec une volonté d'obéissance. Mais ça veut dire qu'ils sont faits d'une telle manière que Dieu peut les accepter, les comprendre. Mais comment ? Je me suis longtemps posé cette question. Comment est-ce qu'il y a un test qui permet de distinguer entre « Ah, cette action, je la fais vraiment de cœur » et « Celle-ci, je la fais avec un arrière-fond ». J'ai réalisé une chose, c'est que on a la vie de Dieu, on a Dieu qui produit quelque chose en nous, mais on reste des êtres humains faibles. Donc, de toute manière, il y aura toujours ces deux choses qui seront présentes. Mais en fait, Paul, il s'est posé cette question aussi. Et dans 1 Corinthiens 4, verset 3, il répond, il dit, une chose très sage, je trouve, « Pour ma part, il m'importe très peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Bien plus, je ne me juge pas non plus moi-même. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien. Mais ce n'est pas pour autant que je peux être considéré comme juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Pas se poser 1000 questions. Je crois que c'est inutile de réfléchir, de peser les choses. Non, avancer. Mais pour avancer, et puis que nos actes, nos aumônes, notre manière de servir les autres viennent de Dieu, ben, la seule solution, finalement, ce n'est pas de regarder à nous-mêmes, à ce qu'on fait, mais d'être connecté à Dieu, d'être en relation avec lui pour que ça coule de lui. Ben, c'est le sujet suivant. C'est ce que Jésus continue, après avoir parlé de l'aumône, il va parler de la prière. C'est à partir du verset 5 de ce chapitre 6. Alors c'était « Lorsque tu fais ton don, maintenant, lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comme vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, et on l'a chanté tout à l'heure, comment être connecté à Dieu de telle manière que mes actions naturelles viennent de lui, soit celles de l'esprit et pas celles qui viennent de ma nature humaine, mais qui sont inspirées par Dieu, en cohérence avec Dieu. Ben, c'est la prière. C'est archi banal de dire ça, mais on sous-estime complètement vraiment l'importance de prier. Ça peut prendre différentes formes, mais si on ne prie pas, on passe quelque chose d'absolument essentiel. Prier est central dans la vie chrétienne. C'est la seule chose, ou c'est le moyen principal pour nous connecter à Dieu, pour que Dieu puisse nous parler et que nos actes deviennent des actes naturels qui plaisent et qui nous apportent l'approbation de Dieu et souvent quand même, pas toujours, l'approbation des hommes. Comment prier par l'esprit? Comment avoir une prière, une vraie prière? Pas une prière de répétition comme les autres peuples, on vient de le lire, comme les païens, mais comment prier pour que ce ne soit pas quelque chose qui cherche finalement l'approbation des autres? Et Jésus donne deux pistes. La première, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Et la suivante, en priant, ne multipliez pas les paroles. Ferme ta porte. Ça va au-delà de simplement dire « priez » de telle manière que vous n'impressionnez pas les autres. Ferme ta porte, va dans ta chambre, arrête-toi. Seul avec Dieu, retrouve ton Dieu, mets-toi devant lui, connecte-toi à lui, va vers lui. Et je ne vais pas insister là-dessus parce qu'on l'a tous entendu 1000 fois, on a tous vécu aussi ce fait que dans des moments où on est seul devant Dieu, il y a quelque chose qui se passe et ça a de la valeur. Mais je suis là, seul devant Dieu, j'ai fermé la porte, qu'est-ce que je vais dire? Quelle est l'attitude pour prier? Notre Père est là pour dire les choses. Mais moi, il y a une chose, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais moi, il y a une chose très étonnante. Oh, dans ta chambre, tu fermes la porte, tu es seul devant ton Dieu, et qu'est-ce que tu dis? Notre Père. Pas mon Père, pas Père, pas Papa, pas Seigneur. Notre Père, au pluriel. Je suis seul, et c'est important. Isole-toi, notre Père. C'est quand même bizarre. Moi, quand je me mets devant Dieu, je n'ai pas tellement tendance à lui dire notre Père. Je lui dirais Père, ou je lui dirais Seigneur. Pourquoi dire notre Père? En fait, pourquoi? Parce qu'on se retrouve devant Dieu. On se retrouve dans Dieu pour partager les pensées de Dieu et pas tellement pour lui faire partager nos pensées. On se retrouve devant notre Dieu pour qu'on partage ses pensées. Et la prière, elle s'intercite de deux manières. Elle dit d'abord, on l'a vu tout à l'heure, que ton règne vienne. si je me retrouve devant mon Dieu, ben je vais lui parler des plans de Dieu, de ce qui intéresse Dieu, des choses que lui a à cœur. Je vais vers mon Père, pour l'entendre lui, que ton règne vienne. Mais pourquoi il dit notre Père, pluriel? Parce que ce qui intéresse Dieu, c'est pas seulement ses plans, c'est son peuple, c'est nous tous. Il a un intérêt profond pour chacun de nous, notre Père Dieu. Et il a envie qu'on partage son cœur. C'est-à-dire, il n'a pas simplement envie d'avoir une relation avec nous, mais on fait partie de son peuple. Ce qui l'intéresse, c'est son peuple. Ce qui l'intéresse, c'est les interactions entre nous. Ce qui intéresse Dieu, ce qu'il cherche, c'est pas simplement une relation avec moi, mais avec toute la famille. Il a un Père. Et se placer seul devant Dieu, eh bien, on va lui parler non pas seulement de nous, personnellement, mais on lui parle de ce qui intéresse Dieu, on lui parle de nos frères et sœurs, on lui parle de l'Église, on lui parle des gens avec lesquels on est en relation, parce que c'est là qu'on va rencontrer Dieu, parce que c'est là qu'il est intéressé, Dieu. Il n'est pas intéressé dans l'abstrait, il est intéressé à avoir des enfants, des êtres, des hommes, des femmes qu'il aime et qu'il veut qu'on vive ensemble. Et je crois que c'est un des côtés essentiels quand on veut se retirer devant Dieu, c'est pas devenir, dans un certain sens, oui, venir seul devant Dieu, mais pas pour lui parler de soi-même, mais parler de nous. J'ai appelé ça la prière que Dieu va vraiment honorer, où on va sentir son approbation. C'est une prière où on partage son cœur, et c'est des prières à la première personne du pluriel. C'est une façon un peu frappante de dire les choses, mais je crois que c'est important. Dans nos prières, ne parlons pas « moi, moi, moi », mais parlons « nous, nous, nous ». N'oublions pas ça, parce que c'est là qu'il y a le cœur de Dieu. Et je crois que on sous-estime quand même un peu la valeur de l'Église, de la communauté chrétienne, de ce qu'on vit ensemble. C'est vraiment quelque chose qui est sur le cœur de Dieu et qu'on rencontre quand on est ensemble, mais qu'on rencontre quand on prie en pensant aux autres. Et ça a un deuxième effet. Ben, si dans la prière, si quand je suis devant Dieu, je pense aux autres, eh ben, ça va me donner un regard sur les autres qui fait que mes relations avec les autres, elles vont aussi peut-être découler en une appréciation des autres. Si j'ai à cœur les autres, parce que je prie pour eux, parce que je les connais, que j'ai envie d'entrer en relation, ben, ça va ouvrir des portes dans mes relations avec les autres. Et je vais pouvoir recevoir non seulement l'approbation de Dieu, mais aussi, finalement, d'une façon assez naturelle, l'approbation des autres, l'accueil des autres. Vous voyez ? Ne pas être centré sur soi, mais sur les autres. Le deuxième conseil de Jésus, c'est ne multipliez pas les paroles. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples, comme les païens. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le demandiez. La prière qui honore Dieu, c'est la prière qui ne force pas Dieu. On n'a pas à forcer Dieu. Si on veut se placer devant Dieu, recevoir l'approbation de Dieu, ben c'est pas en exerçant des pressions sur Dieu qu'on va rencontrer cette approbation. La prière que Dieu honore, c'est celle qui lui laisse la liberté de réponse. Et puis, il y a une très bonne raison à ça. Il le dit, il sait ce dont nous avons besoin avant que nous le demandions. Lui, il sait ce dont on a besoin. Et il ne veut pas que notre prière, comment dire ça, explique toute chose à Dieu, lui dise ce qu'il a à faire. Il n'a pas tellement envie non plus qu'on prie pour exprimer notre soumission à ses ordres, mais il a envie qu'on prie pour nous connecter avec sa manière de penser. Quand je parle avec ma femme, on parle les uns avec les autres, on a envie que l'autre nous comprenne, on a envie justement de cette acceptation mutuelle. Mais c'est aussi ce que Dieu veut, il a envie qu'on entre dans sa manière de penser. Il est le Père qui sait, mais on n'a pas à lui dire, à insister, à faire des pressions pour obtenir ce qu'on veut. Il sait ce dont on a besoin bien, bien, bien mieux que nous. Et ça, je l'exprimais de nouveau par une petite phrase. prier, bien plus que demander, c'est recevoir. Oui, on a à demander, mais le sens de la prière, ce n'est pas tellement que je demande, c'est que je reçois. La prière est un lieu pour recevoir de Dieu. Et on reçoit davantage que son appréciation. Parce que si on prie de cette manière-là, on va faire l'expérience de Dieu, on va faire l'expérience de ce qu'il est. Si je place devant Dieu et je lui laisse la liberté de conduire mes circonstances, eh bien, quelles que soient les circonstances qui vont suivre, eh bien, il y a un côté où je saurai, je sentirai, je verrai que Dieu est là. Je vais faire l'expérience de comment est Dieu, qui est Dieu. Et on en a besoin parce que nous, on a l'impression que Dieu, il doit faire tout ce qui nous plaît. Ben, ce n'est pas comme ça. Et comprendre un peu comment Dieu s'articule avec nous, au fur et à mesure qu'on avance dans l'expérience, rend Dieu de plus en plus admirable. Croyez, ça, c'est mon expérience, je pense, c'est aussi l'expérience de beaucoup. On réalise au travers des circonstances, et entre autres des circonstances un peu difficiles, que Dieu, ben, il est vraiment admirable, il est grand. Et j'ai admiré Dieu, c'est peut-être encore plus important que recevoir l'appréciation de Dieu. C'est voir qui il est. Et comme je le disais au début, il y a en nous comme un trou qui a une forme de Dieu. Mais quand on commence à admirer Dieu, eh bien, ça remplit ce trou de façon qui rend la vie beaucoup plus simple et lumineuse. Il y a un quatrième point. Il y avait les aumônes, la prière, où il y avait deux points, et puis il y a le jeûne, autour du jeûne. Après avoir parlé de la prière, de la connexion avec Dieu, curieusement, ça peut sembler, pourquoi tout à coup Jésus parle de quelque chose qui nous semble peut-être un peu plus marginal, comme le jeûne. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. On parlait des dons faits aux autres, des aumônes, ça c'est des choses qui sont faites envers les hommes finalement, mais en voulant, en agissant pour les hommes, refléter quelque chose de Dieu. Le jeûne, c'est quelque chose qui est entre moi et Dieu. C'est un acte, on pourrait dire, religieux. Il ne s'adresse pas aux autres, il s'adresse vraiment à moi et à Dieu. C'est plus tellement, enfin, en tout cas dans ma culture, c'est plus quelque chose qui est très populaire ou exercé. Oui, je connais beaucoup de gens qui jeûnent, ça m'est arrivé de jeûner, mais je trouve que c'est quelque chose qui est devenu, par certains côtés, un peu artificiel. Alors que je pense que dans la culture de l'époque, c'était naturel. Si Jésus parle de ça, c'est parce que les pharisiens jeûnaient, tout le monde jeûnait, ça faisait partie du fonctionnement religieux de l'époque. De nos jours, peut-être que d'autres exemples seraient plus parlants, comme, j'ai marqué la louange, la prière même, la lecture de la Bible, prendre la scène, voilà, toutes ces choses-là qui ont une importance que l'on fait vraiment pour Dieu. Mais parlons du jeûne, pourquoi pas. Alors la question c'est, comment jeûner juste? Jeûner faux, c'est de jeûner pour se montrer aux autres. Mais comme dans tous ces passages, Jésus utilise une expression pour dire ce qu'il faut faire. Et ici c'est, parfume ta tête, lave ton visage, autrement dit, ne prends pas un air triste. Pourquoi? Mais parce que le jeûne, c'est pour mon bien. Le jeûne, ce n'est pas une chose triste. Le jeûne, c'est quelque chose qui est porteur d'espérance. En fait, finalement, je ne jeûne pas pour Dieu. Qu'est-ce que ça peut lui faire? Je jeûne pour moi. Et si je fais jeûne pour moi, ben, c'est que j'en attends un bénéfice. C'est une bonne chose. Pourquoi prendre un air triste quand je fais quelque chose qui est porteur d'espérance, dont le but est de recevoir? Il y a une absurdité. On ressent la tristesse quand on fait du jeûne, quand c'est un sacrifice pour forcer Dieu. Mais quand c'est un sacrifice pour recevoir, ben ça change quand même la vue des choses. Et je crois important. Pourquoi on jeûne? Finalement, c'est pour arrêter quelque chose qui est normal, mais qui a tendance à prendre trop de place. Alors le jeûne de nourriture, oui, ça a du sens, mais un des problèmes quand même de nos vies, c'est que on est archi encombré par la vie courante. On est plein d'occupations, d'obligations, on est surchargé de travail, de loisirs, de responsabilités, de confusion mentale, de soucis face à la marche du monde. On est rempli de tout cela. Mais jeûner, c'est une manière de dire, je m'arrête, je mets ces choses de côté pour me concentrer sur l'essentiel. Pour ne pas être... Ces choses-là, elles sont là, je ne peux pas les éviter, mais elles bouffent toute l'énergie, toute la place. Eh bien, le cadeau du jeûne, ou le cadeau de renoncer à certaines de ces choses, c'est de donner de l'espace. Et on en a besoin. On en a besoin fortement dans notre société. En étant retraité, c'est un peu plus facile d'avoir une vie avec de l'ouverture. Mais quand on a beaucoup d'occupations, c'est difficile. Ça demande des choix, ça demande des décisions. Et jeûner, juste se priver de nourriture, c'est probablement pas le plus efficace, en tout cas dans notre culture. Mais il y a sûrement des choses qu'il faut périodiquement mettre de côté pour donner de l'espace. Et c'est une chose qui est réjouissante. C'est des sacrifices dans un certain côté, mais ça ouvre la porte à des choses qui sont c'est porteur d'espérance. Et la petite phrase qui résume ça, savoir s'arrêter et recevoir. Ça, je peux laisser tomber. Donc, simplement pour résumer, mes petites phrases, la première, c'est avoir des actions sans arrière-pensée, pure. Je fais la chose parce qu'elle est juste, parce que je la trouve juste, parce que j'en ai envie, et absolument pas pour en retirer quelque chose. Faire les choses sans arrière-pensée. Et pour que ce soit possible, eh bien, être connecté à Dieu et dans des prières qui reflètent Dieu, des prières à la première personne du pluriel, des prières qui tiennent compte qu'on n'est pas un individu, qu'on est une famille. Prier, beaucoup plus que demander, exiger, chercher, c'est s'ouvrir pour recevoir. Et puis, savoir s'arrêter et recevoir. Et voyez, si je résume ça, le cœur de tout cela, le cœur de la marche par l'esprit, le cœur de quelque chose qu'on reçoit de Dieu, c'est « je ne suis pas le centre ». Dieu est le centre, les autres sont le centre, je ne suis pas le centre. Et c'est dans cette attitude-là, c'est en ayant réalisé, en vivant quelque chose de cela, qu'on recevra, qu'on verra l'approbation de Dieu, et aussi, quand même, pas toujours, mais souvent, l'approbation des autres. Et on a besoin de cette approbation, celle de Dieu sûrement, mais celle des autres aussi. Et recevoir celle de Dieu libère, donne de l'espace pour recevoir celle des autres de manière saine. Ça n'a plus un dû, c'est plus « je n'en ai pas vraiment », ce n'est pas indispensable. L'appréciation des autres, je peux la recevoir comme un cadeau. Et je crois que c'est fondamental, pas quelque chose que j'essaye de tirer, mais quelque chose que je reçois comme un cadeau. Et recevoir l'approbation de Dieu, ben, de la même manière, ce n'est pas quelque chose que je peux tirer, c'est quelque chose que je peux recevoir que comme un cadeau. Et Dieu appelle ça la grâce. Et c'est le cœur du christianisme. Amen. J'ai préparé deux questions si on veut le faire, mais ce n'est pas indispensable. Est-ce que vous avez envie des petits groupes? Ok, alors tu peux mettre les deux questions. J'ai laissé des questions extrêmement ouvertes, parce que je trouve que quand on essaye de fermer, on coince les discussions dans les petits groupes. Je préfère qu'ils restent le plus ouverts possible. Donc, quels sont les points qui vous ont retenu dans ce que je viens de dire? Et pourquoi? Et puis, quel est l'impact possible sur mon comportement de ces points que j'ai trouvés importants? Voilà. À vous. Et j'aimerais encore prier. Ma Seigneur, oui, Une fois de plus, moi, je suis toujours très conscient qu'il y a beaucoup de mots, de choses qui sont dites, mais s'il n'y a pas ton esprit qui rend ça vivant, ta parole efficace et vivante, c'est que du vent, la fumée. Alors, Seigneur, que ce ne soit pas le cas, mais que ton esprit retienne dans les choses que j'ai dites quelques points qui nous touchent personnellement et qu'on puisse vraiment les accueillir et les comprendre. Seigneur Jésus, c'est toi qui peux le faire par ton esprit et c'est notre prière. On s'attend à toi. Amen.